Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé. Incident entre les armées congolaises et rwandaises le 13 février dernier à Mikeno et Sabinho, Nord Kivu. Les deux forces ont toutes violé réciproquement le territoire du voisin. Ceci ressort du rapport préliminaire du mécanisme conjoint des vérifications de la CIRGL. Vulgarisation sur les réformes mises en place pour faciliter la procédure de création d'entreprises en RDC. L'Agence nationale de promotion de l'investissement, ANAPI, a lancé cette activité hier à Kinshasa. Omar Kavota, coordonnateur de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix et la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, est notre invité ce matin. Bonjour à tous. Les armées congolaises et rwandaises ont toutes deux violé réciproquement le territoire du voisin. C'était lors des incidents du 13 février dernier dans la zone de Mikeno et Sabinho, en plein parc des Virunga. C'est ce qui ressort du rapport préliminaire du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, JMV, qui a fuité. Ce rapport sera bientôt remis aux deux États. Entre-temps, l'armée congolaise exige d'autres enquêtes du JMV sur les circonstances de la mort de ces trois soldats tués lors de ces incidents et dont les corps ont été restitués à la RDC le 18 février dernier. Gisèle Cage.
Le rapport préliminaire du mécanisme conjoint de vérification a établi que le Rwanda avait bel et bien établi un poste de surveillance sur le sol congolais en plein parc de Virunga, dans la zone située entre Mikeno et Sabinho. Mais les militaires congolais de leur côté, en lançant l'offensive le 13 février dernier contre le Rwanda Defense Force RDF, ont à leur tour violé les limites frontalières du Rwanda. Les FRDC auraient poursuivi les militaires rwandais jusque chez eux dans le district de Musanze. Et c'est justement là-bas que les trois militaires congolais ont été tués, selon toujours le rapport. L'armée congolaise exige d'autre part d'autres enquêtes du mécanisme conjoint de vérification pour établir les circonstances de leur décès, les FRDC accusant le RDF de les avoir torturés avant de les tuer. D'après ce rapport qui va être publié incessamment, le Rwanda a déjà retiré ses troupes de la zone de l'incident et c'est l'armée congolaise qui y est désormais déployée. Entre-temps, une rencontre entre le haut responsable de deux armées est prévue dans le tout prochain jour. Ce sera après celle qui a eu lieu samedi dernier à Goma entre le patron des renseignements militaires des deux pays. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi.
Le conflit qui secoue Emma et Lendu à Djougou en Ituri est loin d'être un problème intercommunautaire. Il s'agit d'une manipulation qui n'a pas dit son nom. La déclaration est de Monseigneur Dieudonné Ouringui, évêque du diocèse de Bounia. Il s'est ainsi exprimé à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani. La dite session de trois jours s'est clôturée hier, jeudi, à Kisangani. Monseigneur Dieudonné Ouringui.
Jeudi. Chez nous, il n'est pas question de conflits ou de guerres ethniques ou interethniques. Nous avons vécu autrefois ces façons de faire, mais cette fois-ci, c'est un groupe, n'est-ce pas, qui s'attaque à d'autres. Disons avec le soubassement peut-être tribal, mais ce n'est pas parce que les uns sont attaqués, mais ils ne réagissent pas. On leur a dit ne réagissez vraiment pas. Mais on a l'impression qu'on veut nous convaincre que c'est une guerre interethnique. Mais les vrais réseaux sont ailleurs. Et ça, nous n'acceptons vraiment pas. Il y a instrumentalisation, il y a manipulation. Parce que imaginez-vous, ces jeunes gens qui s'attaquent aux autres, ont des moyens de communication, des Motorola, presque tous, ils ont de l'argent à gauche, à droite. Ils sont organisés et tout, ça veut dire qu'il y a des mains invisibles, des personnes qui les manipulent. Mais qui exactement et pour quelle cause, jusque-là, nous ne saurons vraiment pas le dire.
Au cours de leurs travaux, les évêques catholiques de 9 diocèses de la province ecclésiastique de Kisangani ont examiné la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Ituri. Dans un message intitulé « Je ne répondais pas le sang », ces prélats catholiques ont fait un constat amer évoquant des cas de violence à grande échelle contre les communautés, d'activisme des groupes armés, de la présence des réfugiés centrafricains et sud-soudanais. Face à cette situation, les évêques ont formulé quelques recommandations à différents niveaux de responsabilité. Leur document a été élu par le secrétaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani. Écoutez l'abbé Archange Campi.
Nous recommandons avec insistance aux autorités nationales de clarifier le statut des migrants étrangers dont la présence inquiète les populations autochtones et de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux violences sous toutes ses formes. Aux autorités provinciales de rendre crédible et effective l'autorité de l'État là où elle est menacée de l'inexistence et d'assumer promptement leur mission régalienne en vue de sécuriser les personnes, leurs biens et leur milieu de vie. Aux forces de l'ordre de savoir qu'elles partagent le destin commun avec la population qu'elles sont appelées à sécuriser, de ne pas utiliser contre cette même population les moyens qu'elle a mis à leur disposition pour sa protection. À la communauté internationale et aux gouvernants des pays étrangers directement concernés par les mouvements migratoires et par les projets d'exploitation des ressources naturelles, de travailler avec l'État congolais pour le respect des droits des populations locales.
Et puis, les intellectuels ressortissants de la province de l'Ituri vivant à Kisangani se disent, eux aussi, très préoccupés par les conflits qui refaient surface à Djougou en Ituri. Au cours de leur dernière rencontre à Kisangani, les membres de Bana Api disent avoir analysé cette situation. Ils plaident pour le retour rapide de la paix dans cette contrée. Ce faisant, ces intellectuels aussi bien Emma que Lendou lancent un message de paix à leurs frères et sœurs du territoire de Djougou en particulier. On écoute Pierre Claver Django, président délégué de cette association.
Nous leur disons tout simplement de bannir à jamais l'esprit de provocation et de vengeance, parce que ce sont des corollaires de la violence qui ne profitent à personne. On doit s'abstenir de tout acte de provocation, parce que quand on provoque une personne, l'action appelle la réaction, ce qui n'est pas bon. Nous invitons nos frères et sœurs de combattre ensemble ce que nous appelons la manipulation. C'est quelque chose de sournois. Quelqu'un qui a un agenda caché, il peut profiter de la situation pour créer dans un objectif qu'il veut poursuivre, et c'est pour cela que je voudrais que nos frères et sœurs se mobilisent, dénoncent c'est tout manipulateur pour pouvoir combattre cette manipulation ensemble. Il y a également l'État congolais à qui nous demandons de prendre toutes les dispositions pour sécuriser équitablement les deux communautés, de telle façon qu'on puisse même favoriser, n'est-ce pas, le retour dans leur milieu d'origine. Mais c'est surtout, nous insistons, pour approfondir des enquêtes, pour dénicher toutes ces personnes-là qui, au nom de Emma et Lendou, sèment la désolation dans les deux communautés, pour qu'ils soient déférés devant la justice, parce que la justice doit jouer son rôle.
Notez que ce dossier a été réalisé par Aliana Alipanagama. Autre nouvelle, de nombreux Congolais réfugiés en Angola à la suite des violences au Kasaï ont été reconduits lundi et mardi à Kamako par les autorités angolaises. Le chef de poste du programme national de l'hygiène aux frontières à Kamako parle de plus de 700 personnes. Ces Congolais qui avaient trouvé refuge au camp de Katanda à Lunda Norte ont ainsi été renvoyés dans leur pays. Écoutez les explications de Christian Mabedi au téléphone de Joël Bofengo.
Ce qui était grave est que le 27, le 26 et le 27, les gens sont sortis en masse, les réfugiés. Ils disent qu'ils étaient dans les camps, à Katanda, là-bas, dans la province de Lunda Nord. Ils ont vu quatre camions des agents d'immigration angolaise. Ils sont venus pour leur dire qu'on veut vous charger les camps. Et les gens se sont précipités pour monter dans les camions. Et ils se sont vus la direction changer jusqu'à la frontière de Kamako. Tout le 26 et le 27, c'est autour de 769 les enfants, les femmes et les hommes.
Le gouverneur de la province du Kasaï où ces réfugiés ont été refoulés n'a pas souhaité commenter cette information pour le moment. Marc Manyanga a promis d'apporter des explications une fois qu'il aura reçu un rapport des officiels congolais sur place à Lunda Norte. La police nationale congolaise revient sur le bilan de la manifestation du 25 février. Elle confirme la mort de deux personnes lors de la marche pacifique du 25 février. L'une des personnes a été tuée à Kinshasa et l'autre à Mbandaka. Ces bilans des opérations du rétablissement de maintien de l'ordre public lors de cette manifestation sur l'ensemble du territoire a été une fois de plus officialisé par le porte-parole de la PNC. C'était hier à Kinshasa. À cette occasion, le colonel Piero Monamputu a demandé aux responsables des médias et ceux qui recourent aux médias sociaux d'éviter toute confusion quant au vrai auteur du meurtre de l'activiste Rossi Mukendi dans la capitale. Suivez un extrait de sa déclaration recueillie par Marcel Mayoyo.
à Kinshasa. Nous avions eu 8 blessés, il y a eu 5 civils, plus 3 policiers et 1 tué. À Kinshasa, on a déploré le décès de M. Rossi Kadima Mukendi et le policier auteur de la bavure, le brigadier en chef Tokis Kumbu, de l'escadron mobile d'intervention du Moamba, a été mis aux arrêts et déféré à l'hôpital militaire où il sera jugé pour les faits qui lui sont reprochés. À l'Équateur, en Badaka plus précisément, il y a eu 13 blessés, soit 9 civils, dont 3 grièvement et 4 policiers. Il y a un tué, et les policiers Agbe de l'unité fluviale à hauteur de la bavure, a été mis aux arrêts et déféré à l'auditoire militaire. Il a été jugé en procédure de flagrance et condamné à perpétuité. Il est radié de la prison congolaise. À ce stade, nous souhaitons que toute confusion portant sur la responsabilité de cet homicide, sur la personne du commissaire supérieur adjoint, le KC Koso Karine, soit écartée. Le président auteur du dit homicide de Rossi Kadima Mukendi a bel et bien été identifié et déféré à l'auditoire militaire garnison de la Gombe.
Pendant ce temps, l'inhumation du corps d'Eric Boloko a eu lieu hier jeudi au cimetière de Bolombo, à Mbandaka. Ce jeune homme de 18 ans a été abattu lors de la marche pacifique du 25 février. La levée du corps et l'enterrement ont eu lieu en présence de la famille de la victime. Le clergé catholique avait projeté d'organiser d'abord une messe de requiem à Mbandaka 2, le quartier où habitait le défunt, mais ses vœux n'ont pas été exaucés par les autorités pour éviter une escalade de violence. Un mort et deux blessés par balle, c'est le bilan des tirs entendus mercredi soir au centre-ville de Lubumbashi. Selon la police, il s'est agi d'un militaire FARDC en divagation, accompagné de ses collègues gardes du corps des deux officiers qui a créé la panique en tirant plusieurs coups de feu en l'air. Pour le commandant de la police ville, c'est un civique qui a été maîtrisé par la police qui l'a aussitôt déféré devant la justice militaire. D'amples détails avec le colonel Jean-Christophe Tirouza, commandant de la police ville de Lubumbashi, au micro de Colin Djumamusompo.
À l'issue de ces tirs, il y a malheureusement les paisibles citoyens qui sont touchés. Il y a la dame et aussi sa falani et son bébé de 9 mois qui était touché au thorax, malheureusement qui a succombé de blessures. Du fait que c'était pendant les heures de pointe où les gens revenaient de leurs activités quotidiennes et presque tous les parkings étaient vraiment concentrés, il y avait des embouteillages. Il fallait vraiment user des tacts pour qu'on ne fasse plus encore d'autres morts ou des blessés. Quelqu'un qui s'est mis à tirer depuis Kamalondo, jusqu'à présent, j'ai observé son arme avec un seul chargeur. J'ai dit, on le poursuit, ne paniquez pas. Je suis sûr qu'à un certain moment, il va épuiser son chargeur et on va le capturer. Il y a eu concours d'autres services, notamment certains éléments des FARDC. On a réussi à les maîtriser et au moins, je vous parle, l'auditoire militaire est saisi.
Création des entreprises en République démocratique du Congo, je l'ai dit en titre, l'Agence nationale de promotion de l'investissement vulgarise depuis hier jeudi les réformes mises en place pour faciliter cette procédure de la conception à la concrétisation. Pour ce faire, l'ANAPI organise une exposition à travers 3 journées portes ouvertes en faveur des entreprises intervenant dans le processus de création d'emplois. L'objectif étant pour ces entités de sensibiliser les investisseurs congolais et étrangers.
Pendant 3 jours, l'ANAPI va vulgariser les facilités que le gouvernement congolais accorde aux investisseurs nationaux comme étrangers dans la création des entreprises. C'est notamment la possibilité de créer son entreprise en 3 jours, la réduction de frais y afférents, la suppression du support matériel pour certaines procédures administratives, la suppression de l'autorisation maritale pour ne citer que ça. Pour ce faire, une dizaine de stands sont érigés par des sociétés congolaises intervenant dans la création des entreprises. Celles-ci ont pour rôle d'orienter les investisseurs et d'expliquer la procédure telle que simplifiée. C'est en tout cas ce que souligne le ministre d'État en charge du plan Bahatilu Kwebo.
Il s'avère malheureusement que ces différentes réformes mises en œuvre ne sont que très peu connues, voire pas connues, curieusement, même des administrations pourtant chargées de leur mise en œuvre ainsi que du grand public. Comme conséquence, les bénéficiaires des dites réformes sont sujets à plusieurs tracasseries, intimidations et autres pratiques peu orthodoxes de la part de certains agents véreux de l'administration dans l'accomplissement de leurs formalités administratives.
Notez que l'idée de la vulgarisation de ces réformes Doing Business est partie du constat amer du déficit criant des communications dans ce secteur.
Former et informer les professionnels des médias sur le rôle de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, dont la promotion de la paix et la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite de minerais. C'est l'objectif de la télé nationale de 3 jours ouvert hier jeudi à Kinshasa. Cette rencontre organisée par le mécanisme national de coordination de la CIRGEL réunit les professionnels des médias du réseau des journalistes sur les ressources naturelles en RDC venues de Kinshasa et de l'intérieur du pays. Aimé Kakese Vinalou, coordonnateur du MNC-CIRGEL, invite les journalistes à vulgariser les activités effectuées par sa structure dans le cadre de la lutte contre la fraude. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous voulons l'impliquer, journaliste comme professionnel, mais aussi l'individu congolais dans ce travail-là. Et l'avantage est énorme. Quand il a compris ce que c'est la CIRGEL, quelle est la lutte qui se mène et que c'est pour le bien de la République et de lui-même, je crois qu'il est autrement plus motivé. Mais au-delà de ça, il peut visibiliser ce combat-là à travers le média, à travers la presse qu'il dirige ou à travers la radio ou la télévision. C'est important. Quelqu'un qui écrit parce qu'il a été payé et quelqu'un qui écrit parce qu'il y croit, c'est différent. Vous pouvez avoir 2 articles sur le même objet, mais l'écriture n'est pas la même. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait des Congolais, effectivement, qui se livrent dans ce combat et qui veut que les choses changent. Vous savez, dans ce milieu, il y a beaucoup d'argent. Certains d'entre nous se laissent prendre. Et quand il a eu 1 000 $, il croit que c'est la fin du monde. Et il se tait. Mais si un Congolais a compris, il peut dire, bon, on peut me donner 1 000 $, 10 000 $. Ça peut me faire quoi, moi, individu, par rapport à la génération future. Mais je préfère que ceci ne se fasse pas, que je dénonce parce que j'ai les preuves et j'ai les faits pour que ça serve de leçon à tout le monde.
Actualité Afrique Monde.
Après les dérives de Jacob Zuma, le train de vie de Cyril Ramaphosa est de plus en plus scruté en Afrique du Sud. La publication du futur budget de l'État a permis d'en savoir plus sur les revenus du nouveau chef d'État qui gagnera un salaire annuel plus élevé que celui du président déchu. En 2018, Cyril Ramaphosa va gagner près de 248 000 euros, soit quasiment 50 000 euros de plus que son prédécesseur Jacob Zuma, dont le salaire dépassait les 197 500 euros par an. Le chef de l'État sud-africain reste le mieux payé d'Afrique et se situe dans les top 10 au niveau mondial. En campagne pour réclamer des fonds pour l'hôpital public, hier, le chef de combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a estimé que Cyril Ramaphosa pourrait investir son salaire dans le système de santé de son pays.